Radio As.
Interview.
Mon invité aujourd'hui est David Lisnard, candidat Les Républicains à sa propre succession pour la mairie de Cannes, donc pour les élections du 15 et 22 mars prochain. Vous êtes également le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de l'Hérens. J'ai envie de vous surnommer Transformator. Première chose, est-ce que la saison 2 de Transformator, si vous êtes réélu, reconduit à la mairie, sera dans la continuité de ce que vous venez de faire durant votre premier mandat, puisque votre liste est Cannes Avance?
Moi, je n'ai pas la prétention d'être Transformator.
J'assume mon propos.
Non, moi j'ai l'ambition de valoriser la ville et de défendre et de protéger les habitants. Donc, les Cadoins m'accordent leur confiance et que je fais un deuxième mandat, j'essaierai de conforter les fondamentaux que l'on a mis en place. La sobriété fiscale, la maîtrise des dépenses, la baisse de la dette, la défense des contribuables, très concrètement, et également tout le travail contre l'incivisme, essayer de lutter contre l'insécurité, même si ça dépend en grande partie de l'État. Bref, ça, ce sont les fondamentaux, d'avoir une ville plus propre, toujours mieux tenue, de façon rigoureuse, et puis de préparer l'avenir, c'est ce qui compte, préparer l'avenir pour accompagner la transformation numérique et renforcer la performance publique grâce aux nouveaux matériels, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, préparer l'avenir en faisant de Cannes une ville étudiante. On vient de livrer le premier bâtiment universitaire. Il va falloir maintenant qu'on développe le campus universitaire. Et ça, c'est très très important pour fixer notre jeunesse. Préparer l'avenir en nous inscrivant dans une dynamique environnementale de bon sens, concrète, pas dans les grandes déclarations abstraites et objectives pour lutter contre le réchauffement climatique, par la végétalisation des espaces publics, pour lutter pour la biodiversité, notamment par la protection de la Méditerranée. On a fait beaucoup de travaux là-dessus, beaucoup d'efforts, on a obtenu beaucoup d'avancées. J'entends dire n'importe quoi sur ce qui a été fait. Et je pense que le fait qu'on ait interdit les bateaux pollueurs, il n'y a pas de rejet en mer. J'entends parfois, même sur les ondes, des inepties qui sont dites par des personnes qui devraient profiter des élections pour faire progresser le débat et pas pour tomber dans le dénigrement, de travailler concrètement, comme on l'a fait, lancer un grand plan anti-plastique. Préparer l'avenir, c'est bien sûr faire en sorte que chacun se sente à sa place dans la société. On développera le plan accessibilité des espaces publics, tout ce que l'on fait en accompagnement des personnes handicapées. Faire en sorte que les personnes âgées qui ont des faibles revenus puissent se loger. On va lancer 100 logements par le Centre communal d'action sociale de très bon niveau. On va créer 348 lits en EHPAD, c'est-à-dire...
notamment à l'hôpital de Cannes.
Exactement. C'est un lourd combat pour obtenir les financements. Donc, maison de retraite médicalisée pour les personnes âgées à faible revenu. Et on va créer 196 logements pour les jeunes. Bref, des actions concrètes. Et puis, transformer les espaces publics, les améliorer, qu'ils soient fidèles à l'identité provençale cannoise et qu'ils soient adaptés au 21e siècle. Je peux vous citer la végétalisation de la voie rapide, le centre de la Boca qui va considérablement progresser, les nouvelles pistes cyclables qui vont être créées, etc. etc.
Est-ce que vous avez l'intention de proposer par exemple un service d'abonnement vélo comme à Nice jusqu'à Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet même, style vélo bleu?
D'abord, on accompagne le développement du vélo. Il faut d'abord qu'il y ait des pistes cyclables pour qu'on puisse circuler. On a fait 13,4 km, mais ce n'est pas assez. Donc, on va considérablement développer les pistes cyclables, y compris sur la Croisette. C'est également des parkings à vélo que l'on va développer. On va créer plus de 200 emplacements supplémentaires, dont certains connectés pour les vélos électriques. Quant à un système de vélo partagé, chaque individu doit être incité à avoir un vélo. Et les systèmes de vélo partagé, moi, j'y suis favorable à condition que ça ne se fasse pas au détriment des contribuables. Quand je vois ce que ça coûte, très souvent, ça paraît indolore, mais c'est extrêmement cher pour les contribuables. Donc on a plusieurs pistes, je pense qu'on y arrivera, des pistes cyclables mais des pistes budgétaires aussi, je pense qu'on y arrivera et que ça ne plombe pas les contribuables et les générations futures en termes financiers.
Alors vous parliez de la végétalisation, notamment de la voie rapide, est-ce que vous voulez faire une espèce de coulée verte pour relier l'ouest et l'est de la ville avec pistes cyclables?
Alors moi j'utilise rarement les termes à la mode. Les coulées vertes, tout le monde prétend en faire partout. On a déjà, nous, plus que des coulées vertes, on a de grands espaces publics verts, notamment la Croix des Gardes qui a été totalement protégée. On vient d'ajouter 65 hectares, c'est plus qu'une coulée d'espaces naturels protégés. On a la vallée de la Sienne, on a installé des agriculteurs qui alimentent nos cantines scolaires. Et en revanche, on va végétaliser la ville avec des îlots d'arbustes, d'arbres, de façon raisonnable, parce qu'il faut aussi garder de la vidéosurveillance. Il ne faut pas que les arbres empêchent la vidéosurveillance. Et sur la voie rapide, l'idée, c'est de garder cet axe comme un axe routier compliqué parce qu'on ne peut pas asphyxier la ville. Autant il y a d'autres secteurs qui seront piétonnisés, on fera des pistes cyclables ailleurs. Mais en revanche, de végétaliser, de faire une canopée urbaine là où on le peut, notamment pour reconstituer la colline du Suquet qui a été, j'allais dire, transpercée à la fin du 19e siècle. Et on aura deux grands jardins publics suspendus qui prolongeront la colline du Suquet et qui vont vraiment améliorer considérablement le paysage urbain à Cannes et apporter de la verdure. De même que sur le toit Fortville, on va faire un grand jardin public de 3200 m² sur le toit du marché Fortville, un jardin des senteurs et des saveurs.
Si je comprends bien, ce serait à l'entrée de la voie rapide en arrivant de Cannes-la-Bocca, donc au niveau de la colline du Suquet, une espèce de tunnel sur lequel nous retrouverions un jardin végétalisé.
Oui, alors pas vraiment un tunnel parce qu'on a beaucoup plus de hauteur que dans un tunnel, hein, mais c'est de recréer la colline du Suquet telle qu'elle était à la fin du 19e siècle et de créer deux grands jardins publics méditerranéens qui font le lien entre le Suquet et le quartier de Stanislas.
Autre thème important, la circulation. Je sais que vous vous battez pour obtenir une bretelle d'accès de la zone des Tourades pour rejoindre la 8. Est-ce que cela avance à votre rythme ?
Ah non, ça avance pas à mon rythme, ça c'est sûr, parce qu'on est tributaire des inerties de l'autorité concédante qu'est l'État et de Vinci Autoroute hein, qui traite la vache. Et la vache, c'est nous, hein, en tant qu'automobilistes et en tant que contribuables, on paye deux ou trois fois, beaucoup trop. Donc je suis en train d'auditer tout cela et je vais continuer le combat. Parallèlement, on a prévu tout un réseau de parkings d'entrée d'agglomération connectés aux trambus que l'on met en place. On a 20% de passagers en plus dans nos bus depuis qu'on met en place ce nouveau système qui est très qualitatif. On améliore la cadence, la fréquence, la régularité, la sécurité dans des bus confortables avec 5 caméras. Et donc, on va faire 3 grands parkings d'entrée de ville. Un a été fait à Mandelieu. L'autre sera fait au Campon, au Canet, donc par l'agglomération. Et un autre à Bastide Rouge. Plus de 1000 places connectées aux trambus, au réseau de pistes cyclables que l'on est en train de développer et au réseau routier. C'est ce qui nous permettra de permettre aux automobiles de toujours venir, mais de redonner de la place aux piétons, aux bus et aux modes alternatifs comme le vélo.
Vous parliez de la Bastide Rouge. Justement, la Bastide Rouge est en plein renouveau. L'Université du cinéma est enfin dans la ville mondiale du cinéma, un multiplex. Pouvez-vous nous parler de ces deux projets qui vont voir le jour très prochainement, là, dans les mois qui viennent ?
Bien écoutez, oui, c'était un rêve et qui devient réalité. Donc Cannes devient une ville étudiante, ce qui permet de fixer la jeunesse. Hein, et on va avoir 1100 étudiants dès la rentrée de septembre. On vient de livrer le bâtiment, c'est une initiative mairie de Cannes, livrée au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, avec dans un premier temps 16 formations, puis 33 formations liées au métier de l'écriture, au cinéma, mais pas seulement, à l'audiovisuel, à la publicité, aux jeux vidéo, bref, à tous ces métiers aujourd'hui qui explosent, qui sont porteurs de valeur ajoutée à la fois culturelle, artistique, mais aussi économique et sociale, et cohérente avec l'image de Cannes. Le multiplex cinématographique, qui sera le plus beau du Sud-Est, avec le plus grand écran du Sud-Est, va ouvrir dans moins de 6 mois. Et parallèlement, le Star va rouvrir aussi rue d'Antibes.
Excellente nouvelle.
Donc on va être la ville la plus dotée de salles de cinéma par habitant, et c'est normal. Cannes était la capitale du cinéma pendant 11 jours, elle va le devenir pendant toute l'année, d'autant plus qu'on prévoit de faire ce grand musée international du festival et du cinéma.
Est-ce que vous avez une date pour l'ouverture du Star ?
Non, c'est un projet privé, mais il passe avant la fin du mois de mars en commission d'aménagement cinématographique. Le permis modifié a été déposé, donc tout semble en ordre, tel que nous l'espérions et que nous le voulions.
Quand je vous parlais de Transformator, c'est vrai que la rue Félix-Faure, c'est à mes yeux, donc là je vais être très subjectif, ce n'est pas normalement mon rôle, mais je trouve que c'est une réussite, j'imagine que vous partagez mon avis subjectif.
Oui, je suis encore plus subjectif que vous, puisque je voulais le faire, je suis très très heureux du résultat, on a planté les féviers là, qui vont en plus apporter de la végétalisation, mais je suis très heureux aussi de Boca Cabana, on s'est habitué, mais ça a à peine 2 ans, et on va continuer Boca Cabana, c'est-à-dire faire des pistes cyclables, ces beaux aménagements à la Boca en bord de mer, on va sécuriser les plages avec un système d'endiguement sous-marin, le Mouret Rouge aussi, je trouve, est une belle réussite, et on va prolonger cette belle promenade piétonne, le centre de la Boca, l'avenue de Grasse. C'est très très important, les espaces publics. C'est très important pour notre qualité de vie d'habitants. On les rend plus beaux. Le beau, c'est mieux respecté. On les rend plus sûrs parce qu'on en profite pour installer la vidéosurveillance. On a le réseau le plus dense de France, une caméra pour 122 habitants. Et on les rend plus accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes handicapées. On les rend plus pratiques, connectés. On a récupéré 8 grands parkings qui avaient été privatisés, qu'on vient de récupérer après une bataille juridique. On a mis 3 heures gratuites le samedi, 3 heures gratuite le dimanche, 2 heures gratuites en semaine. Et les espaces publics, donc, c'est un élément de qualité de vie. C'est ce qui permet de soutenir les commerces de proximité. C'est aussi donc un élément d'attractivité et de compétitivité territoriale. On compare les villes au regard de la qualité des espaces publics. Et c'est très très important de faire beau, de faire pratique, de faire accessible, de faire compétitif.
Alors vous parliez de praticité, la gare routière de l'hôtel de ville va-t-elle demeurer du coup dans cette requalification de tout l'espace, hein, donc de Félix Faure jusqu'à la Pantiéro et même jusqu'au Café Roma, est-ce qu'elle va demeurer donc présente à sa place?
Non, on va à la place de cette gare routière faire une belle place qui va faire le lien entre le CAN événementiel de la Croisette et le CAN patrimonial et historique du Suquet et de Fortville autour de l'hôtel de ville avec une place, on enlèvera le goudron, on mettra des pavés et on mettra certainement une belle œuvre d'art pour marquer le lien entre le vieux port. On va également rénover toute la prud'homie de pêche qui va être ouverte sur la ville. Nous avons la chance d'avoir la plus grande prud'homie de pêche, c'est grâce à l'implication des pêcheurs, de la chambre de commerce et de la ville de Cannes. La plus grande prud'homie de pêche des Alpes-Maritimes et du Var, on a 33 pêcheurs professionnels. C'est un vrai patrimoine, c'est un intérêt économique, mais c'est plus que cela, c'est une identité qu'il faut cultiver et partager. Et donc on aura une nouvelle prud'homie de pêche, une nouvelle place Cornu-Gentil. Donc le système de bus va être réorganisé pour libérer cet espace en bord de mer qui n'avait pas vocation à rester gare routière.
Réorganisé, j'imagine, au niveau de la gare SNCF ?
Entre autres, en fait, le réseau peut être conçu différemment, mais c'est un peu tôt pour le dire, mais on peut aussi utiliser la voie rapide pour y fixer des arrêts de bus et renforcer la gare SNCF qui est devenue et qui devient une gare routière, effectivement.
Dernière chose, nous sommes en pleine épidémie de coronavirus, donc le Covid-19. Est-ce que vous voulez dire quelque chose aux auditeurs de Radio As ?
C'est tellement obsessionnel dans l'actualité qu'en rajouter une couche, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Écoutez, il faut prendre cette crise sanitaire avec beaucoup de précautions, c'est ce qui est fait, sans la sous-évaluer, sans la surévaluer non plus. Et la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'il faut d'abord protéger
l'économie.
Il faut d'abord protéger les populations, ça c'est la priorité, c'est de protéger les habitants. Mais il y a tellement d'excès autour de la surcommunication autour de cela qu'on est en train de flinguer des milliers d'emplois sans qu'on soit sûr que ça serve à quelque chose sur le plan sanitaire. Donc je crois qu'on est dans une situation assez ubuesque. Il faut accompagner l'État et bien évidemment être très très précautionneux pour protéger les populations. Mais à partir du moment où l'épidémie est répandue, il va bien falloir qu'on trouve un moyen de vivre ensemble et qu'on n'ajoute pas à une crise sanitaire une crise également dramatique sur le plan social. Moi, je pense à tous ces agents de sécurité, à ces hôtesses, à ces transporteurs, à ces chauffeurs de taxi, à ces restaurateurs, à ces cuisiniers, à ces femmes de chambre, toutes ces personnes. Moi, je viens du petit commerce, ces employés de commerce, ces petits patrons qui sont très fragiles. Des boîtes ont des gros problèmes de trésorerie à la sortie de l'hiver. Des salariés ont besoin de travailler, de se nourrir. Donc, il faut protéger les populations fragiles, c'est sûr, mais il faut aussi protéger notre économie et nos emploi.
Pour conclure, je dirais, il faut savoir raison garder.
Il faut toujours savoir raison garder, mais je crois qu'on en est au-delà. Il faut savoir raison retrouver. Je suis très très frappé de voir à quel point notre époque est marquée par une croissance exponentielle des progrès scientifiques, et c'est fantastique parce que la recherche médicale, les nanotechnologies, les sciences vont très très vite par l'algorithmie, l'intelligence artificielle, et parallèlement par une régression de la raison commune. Cette incapacité à appréhender le risque, cette dictature de l'émotionnel catalysée par les chaînes d'infos continues, les réseaux sociaux qui créent des vraies situations dramatiques. Donc il ne s'agit plus de raison garder, il s'agit de raison retrouver.
Excellente conclusion. Merci. David Lisnard, je vous remercie.
Merci à vous, merci beaucoup.